Et je suis assez d'accord ce que vous avez dit sur l'Irak, bien sûr, mais disons quand même pour nos lecteurs, pour ne pas les désorienter totalement, que ce livre n'est pas un plaidoyer pour la campagne d'Irak de George Bush, mais en gros pour que l'on regarde avec de plus en plus d'attention le combat qui se situe à l'intérieur de l'islam entre les partisans de ce que j'appelle la liberté de l'islam et ses adversaires. Et que même un événement comme le 11 septembre qui nous a tant choqués n'est peut-être qu'une une braise, vous savez comment ces feux très forts, qui est venu tout d'un coup incendier notre tapis alors que nous ne nous y attendions pas. Mais qu'en réalité, il n'y a pas commune mesure entre la violence que l'Occident subit de temps à autre liée à cela et ce qui se passe en fait du Maroc à l'Indonésie. Un affrontement qui n'est pas l'affrontement des cultures, comme le dit Huntington, un affrontement qui n'est pas dû à la dégradation d'une société organique qui aurait été agressée de l'extérieur par la modernité occidentale, ça c'est la thèse d'Edouard Saïd. Non, je pense que exactement comme l'Occident a traversé du XVIe au XVIIIe siècle une grande guerre de religion, une grande guerre de finalité, eh bien il se passe quelque chose aujourd'hui dans l'islam de cet ordre, pas nécessairement catastrophique, pas nécessairement apocalyptique, et même je dirais que je pense qu'aussi bien dans le cas iranien que dans le cas turc, nous avons peut-être, et c'est pour ça que je les ai isolés, si j'avais voulu être complet, j'aurais dû aussi parler du Maghreb, qui me semble le troisième grand ensemble dans le monde islamique, qui est porteur de grandes et de grandes espérances. Mais les Turcs, dans leur aspiration européenne, qui est maintenant presque unanime, les Iraniens, dans la capacité qu'ils ont eue de digérer une révolution qui avait des côtés évidemment totalitaires et comme ça, au coup par coup, de sortir de cette situation. Vous savez, il n'y a rien de plus fort qu'une perception. Tout le monde a vu des films iraniens. On n'a pas par hasard un tel cinéma dans une telle société. Bon, alors c'est tout cela que j'ai essayé de me rendre ensemble et d'agiter le paquet. En ce qui concerne l'Irak, parce que je ne dérobe pas du tout la question de Philippe Petit, mais c'était juste pour essayer de replacer ça dans son contexte. Je crois même que l'Irak et l'opposé terme à terme de la guerre du Vietnam. En effet, au Vietnam, il y avait un État, je ne remplace pas le mot fantoche, qui est un peu trop brutal, que la propagande communiste utilisait, mais c'était tout à fait parlant. Il y avait un État qui n'avait aucune légitimité, ce Vietnam. Même dont les soldats se débandaient, dont la population ne souhaitait pas, même quand elle était anticommuniste, qu'ils se maintiennent. Et nous avions une armée qui était assez solide, parce qu'il y a une tradition militaire, comme ça, en Irak. Le gouvernement actuel est éminemment légitime. Il est le produit de 85% de la population. Et la meilleure preuve qu'il n'est pas une manipulation américaine, c'est qu'on y compte par un poste-clé beaucoup plus d'hommes qui sont venus directement d'Iran et qui sont directement en rapport avec le gouvernement iranien, je dis bien iranien, que de séides des États-Unis. C'est même une situation presque humoristique, parce que je pense qu'on aurait expliqué vraiment à George Bush ce qu'il faisait, je ne suis pas sûr qu'il serait allé jusqu'au bout. Mais heureusement, il n'avait pas dépassé la leçon numéro 1 sur l'islam, il ne connaissait pas la différence entre les chiites et les sunnites, c'est heureux. Mais en tout cas, ce gouvernement est profondément représentatif de la population irakienne. Par contre, il n'a pas d'armée. Et il n'a pas d'armée, ça n'est pas une affaire toute récente. Déjà, l'Empire ottoman interdisait aux chiites de porter les armes. Il a fallu les réformes de 1908, et puis le courage des généraux turcs pendant la guerre de 14, qui ont armé les chiites pour qu'ils aient une petite expérience militaire. Donc ils sont là, des policiers au bras ballant, qui n'ont pas l'habitude de tout cela, face à des djihadistes très résolus, et nous avons beaucoup d'incidents très graves. Écoutez, 450 morts à la suite d'une bousculade, mais il y a bien eu un tir de mortier d'Al-Qaïda auparavant qui a entraîné cette panique, et 60 morts... dans le métro de Londres, ce n'est pas du même ordre. Alors j'ai voulu remettre le projectile, oh là là. Bon, je m'arrête sur mon lapsus, qui est très beau, mais j'ai voulu remettre, oui, je vise aussi quelques adversaires.
Ah ben vous visez Huntington et défunt Edouard Saïd,
sans méchanceté.
Enfin, non, je suis aussi, pas d'accord
avec je suis aussi en désaccord avec l'un qu'avec l'autre, qui étaient des intellectuels de bonne qualité. Mais oui, je mets le projecteur sur l'islam, sur l'Iran, sur l'Irak, sur la Turquie. Je crois qu'on
et sur une connexion Turquie-Iran,
bien entendu,
qui est plus importante que ce que l'on peut croire quand on ne sait pas ou que l'on apprend. Alors, quand on apprend ce que vous écrivez, bon, y compris sur les grands chefs iraniens qui sont turcs et vice versa.
Mais oui, les deux cultures se sont interpénétrées.
Khamenei est turc.
Khamenei est turc, azerbaïdjanais. D'ailleurs, beaucoup d'Iraniens rigolent de son accent turc quand ils parlent comme des Russes audacieux rigolaient de l'accent géorgien de Staline. Mais ça, c'est une autre affaire. Je veux dire que la culture en Iran est turco-iranienne, mais la culture turque est profondément pénétrée de chiisme, qui a été, comme le protestantisme en France, une religion minoritaire, mais décisive. Et en particulier, il n'y a rien de plus fort qu'une perception. Allez au musée de Topkapi à Istanbul, vous verrez les plus beaux exemplaires, la plus belle peinture persane, de même qu'il n'y a pas d'art proprement turc, c'est un art persan. L'islam est venu chez les Turcs de l'Iran. Et inversement, les Turcs ont donné un état à l'Iran et le donnent encore aujourd'hui. Alors voilà, c'est un peu cette combinaison. Or, les deux pays sont aujourd'hui, en apparence, ou étaient aujourd'hui, aussi opposés que possible. L'un faisait de la laïcité et de l'armée, les deux piliers de sa modernité, et l'autre était revenu vers une forme de religiosité effusive et parfois un peu violente. Or, malgré l'élection présidentielle que j'ai prise dans les dents comme tout le monde, qui a mis sur le pavois un personnage que je n'apprécie pas, Ahmadinejad, il est quand même incontestable que le chiisme iranien est en voie de se transformer de manière bouleversante. Je parlais de l'art de Kiarostami, mais il n'est pas le seul exemple.
Et vous êtes très optimiste, hein. Vous dites, et puis l'Iran a toujours su nous surprendre. Hein. Vous dites
oui,
que...
c'est une société qui paraissait archaïque au début du siècle et qui a fait sa révolution avant la Turquie, qui était bien plus avancée sur le plan économique. C'est une société qui apparaissait très tournée vers elle-même. Les Iraniens sont très intériorisés et qui a su, à un moment donné, prendre la tête de tous les grands mouvements culturels du monde musulman. Mossadegh a été le démocrate le plus conséquent, le plus bouleversant. Il avait des côtés un peu nerveux parfois, mais c'est quand même un homme pour lequel j'ai un immense respect. C'est une figure comparable à Nehru. La révolution chiite a été une révolution complexe. Ils sont entrés des composantes de toute nature, et ce qui se passe aujourd'hui, qui est compliqué, qui est sinueux, parce que les Iraniens adorent la dissimulation, c'est une partie de leur art, eh bien c'est quand même aujourd'hui la poussée en avant d'une révolution de la liberté presque aussi importante que ce que les Turcs ont réussi dans le domaine de la liberté extérieure. Vous savez, en japonais et en chinois, on distingue l'aspect intérieur et l'aspect extérieur, omote et ura, en japonais. Bah, la Turquie, c'est le mouvement vers l'extériorité, c'est le mouvement vers l'Europe. L'Iran, c'est l'intériorité, l'approfondissement en vrille. Mais la philosophie iranienne, depuis 1000 ans, c'est la philosophie de l'islam. Il n'y en a pas vraiment de comparable, depuis la perte de l'Andalousie, en tout cas.
Alors Philippe Petit, est-ce que vous partagez vous l'optimisme adlérien de l'axe turco-iranien?
Vous savez, ça, bon, ça c'est vraiment, c'est vraiment une question géopolitique, de fond. Aujourd'hui, si on prend effectivement le cas de l'Irak, il y a des gens qui vont vous dire que on assiste à une ingérence iranienne, l'insurrection, la guerre civile en Irak signe, l'échec de la guerre préemptive dont je parlais tout à l'heure. Donc je crois, pour revenir au point de départ de notre discussion, ce qui fait qu'il y a des lignes de fracture entre nous, très souvent, c'est par rapport à la conception que nous nous faisons, de l'euro-américanisme. Or, il est évident qu'aujourd'hui, l'euro-américanisme est malade, parce que le type d'alliance que l'on peut passer avec les États-Unis, qui ne sont plus du tout les États-Unis de Roosevelt, de Keynes, que vous citez à la fin du livre, ou tout simplement les États-Unis d'après la Deuxième Guerre mondiale, enfin de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des États-Unis prédatrices, ce sont des États-Unis n'ont plus que la guerre, pour affirmer leur politique, ce sont des États-Unis qui remettent en cause, le type d'alliance que l'on peut passer avec elle. Et je crois que ça n'a rien à voir avec l'anti-américanisme, quantité d'auteurs, d'écrivains américains, ou même par exemple, vous citiez tout à l'heure des Iraniens comme, vous avez cité Kiarostami, mais on pourrait citer Dariush Shayegan, qui entre parenthèses qui a écrit La lumière vient de l'Occident, mais qui est beaucoup moins optimiste que vous actuellement sur la situation de son propre pays. Mais sinon, sur la construction que vous établissez, que vous dressez, parce que c'est vrai que c'est une véritable maison, mais avec plusieurs facettes, elle n'est pas monolithique, et je crois que là il faut vous reconnaître en ce qui concerne la Turquie et l'Iran, une connaissance suffisante pour que le lecteur puisse être largement intéressé. Mais vous voyez bien que on en revient quand même au point de départ, sur l'euro-américanisme. Je crois que c'est là-dessus, je ne peux pas vous suivre.
Mais disons que le 11, c'est quand même beaucoup vous, parce que je suis en effet plutôt favorable à une alliance de l'Europe et des États-Unis, mais ça ne prend pas beaucoup de place dans ce livre. Et par ailleurs, vous savez, si l'Europe ne veut pas s'allier aux États-Unis, ça ne me dérange pas. En réalité, je l'ai exprimé d'ailleurs même autrefois, ce n'est pas mon problème central. Mon problème central, c'est que la liberté dans l'islam là, dans ce livre, en tout cas, mais souvent aussi dans la vie, triomphe sur les courants islamistes. Alors, si vous voulez, je suis à mi-chemin entre les gens qui dénoncent l'islam comme étant une religion, on va dire le mot, intrinsèquement perverse, et qui aurait engendré par elle-même des formes d'oppression particulières. En réalité, je ne crois absolument pas à cela, et je crois que l'histoire de l'Iran et de la Turquie, mais il y en a d'autres, mais celle-là particulièrement, s'inscrivent en faux contre cette représentation. Et je suis aussi très très opposé aux gens qui minimisent les méfaits de l'islamisme, qui le présentent au fond comme une forme, je suis généraliste, avec laquelle on peut vivre. Moi, je ne crois pas non plus. Je crois que l'islamisme est la forme locale qu'a prise le fascisme, et qu'il y a un antifascisme aujourd'hui dans le monde islamique qui, comme le nôtre, est d'ailleurs hétéroclite. Si vous voulez, comme je le dis un moment, Churchill, De Gaulle, les conjurés allemands du 20 juillet 1944, les communistes, tout cela formait un ensemble qui était un peu disjoint. Mais c'est semblant disjoint qui a fini par faire barrage devant cette immense menace qu'a représenté le fascisme en Europe. Eh bien, aujourd'hui, la coalition anti-islamiste, depuis le Maroc jusqu'à l'Indonésie...
Oui, vous dites il faut pas compter en 300 millions de personnes dans l'espace arabe, vous dites qu'il faut compter avec 1 milliard dans l'espace musulman.
C'est aussi
un milliard de personnes.
C'est aussi un des aspects centraux de la situation actuelle, c'est que la séparation qui a été voulue par les différents peuples, d'ailleurs, c'est un des grands fondateurs de la révolution jeune turque qui disait... que les Arabes aillent avec les Arabes et les Iraniens avec les Iraniens, nous sommes Turcs et nous voulons le rester. Alors cette unité de l'islam a volé en éclats, aujourd'hui elle est revenue. C'est-à-dire qu'on voit par exemple que les liens entre l'Irak chiite et l'Iran chiite sont très forts, que le nationalisme arabe, qui a été une forme d'ailleurs qui avait sa raison d'être et son prestige, a explosé peu à peu, mais que par contre l'identité musulmane est revenue. Aujourd'hui d'ailleurs c'est un effet de la mondialisation, ce qui se passe à Jakarta n'est pas étranger aux gens qui vivent au Caire. Or, c'est une chose qui n'avait pas lieu d'être, même dans les années 50. Donc aujourd'hui, c'est vrai, et la réorganisation des forces politiques dans le monde musulman est la même pratiquement dans tout cet espace. Et je pense pour moi que c'est un enjeu décisif de notre monde, et un enjeu dans lequel nous ne pouvons pas être tout à fait neutres.
Philippe. Bien sûr qu'on ne peut pas tout à fait neutre, mais là je vous ferai un petit reproche. Est-ce que ce n'est pas un tort d'opposer, comme vous le faites dès le début du livre, la modernité et l'archaïsme? Freud disait, la culture travaille avec les mêmes moyens que l'individu, et on sait très bien que c'est toujours sur un fond d'ignorance que se bâtit le type de rapport qu'on peut avoir avec un autre que soi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous insistez avec raison sur ici par exemple, monsieur Benslama vient d'écrire un très beau manifeste des insoumis que je pense qu'on signerait tous les deux, qui concerne justement la place des démocrates de culture musulmane ou d'origine musulmane, et là évidemment il y a point d'accord, mais sur la méthode il peut y avoir divergence, parce que vous savez très bien que entre la modernité et l'archaïsme il y a aujourd'hui ce que Abdelwahab Medeb appelle l'islamisme diffus, qui justement ne répond pas à ce critère aussi tranché de la modernité et de l'archaïsme.
Alexandre,
et qu'il y a des islamistes très modernes.
Cher Philippe Petit, d'abord il faut choisir, vous m'envoyez comme référence Darius Shayegan, qui a retourné la célèbre phrase de la mystique persane, la lumière vient de l'Est, la lumière vient de l'Ouest, et qui lui est un occidentaliste probablement plus radical que je ne le suis. Donc je ne méconnais pas du tout les formes de modernité qu'il y a dans l'islam. Mais si j'ai envoyé ce coup de clairon, modernité contre archaïsme, et je persiste et je signe. D'abord parce qu'on a le droit, dans les symphonies de Mahler, qui ne sont pas totalement comparables à la musique de von Suppé, vous avez des coups de clairon, vous avez de la batterie, vous avez de la percussion, vous avez même de la musique militaire. Alors j'en ai fait un peu là, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que j'entends tous les jours, n'est-ce pas, des idéologues nous dire qu'en fait, ce qu'on croit l'archaïsme est d'une troublante modernité, ces jeunes filles qui se voilent, etc. Mais non, ce n'est pas vrai. Les lumières contre les ténèbres. Vous savez, on parle de l'Iran à tort et à travers, mais je ne le croyais pas, et c'est pour ça que j'ai fait cet éloge de mes diplomates turcs. On ne peut pas faire une représentation publique de musique classique occidentale. Donc j'ai été à l'ambassade turque, où j'ai enfin pu boire un café normal. Et boire un verre de vin, et j'ai entendu la première sonate pour piano et violon de Beethoven par une jeune interprète iranienne et l'ambassadrice de Turquie. Voilà, c'était exactement ce que j'ai entendu. J'ai entendu Mahler avant.
Augustin Dumay, là. Finissez votre phrase, Alexandre.
J'ai pensé aussi à cet homme extraordinaire qui était Mehmet Ali Saïgoun, que nous ne connaissons pas bien en Occident, et qui était l'assistant de Bartok. Il a accompagné Bartok dans toutes ses expéditions pour enregistrer ses musiques des Carpates, des Balkans, qui sont le tissu même de la musique symphonique de Bartok. Et Saïgoun lui-même a été ensuite un très grand compositeur turc. Il a fait un opéra qui s'appelle Yunus Emre, qui est à l'honneur de ce grand sage soufi de Konya, qui est un peu le Spinoza, parce qu'il avait une conception totalement immanente de la divinité, Spinoza turc. Eh bien, moi, je ne trouve pas d'une troublante modernité les mollahs qui croient que le témoignage d'une femme vaut 50% de celui d'un homme. Je veux leur donner un coup de pied au derrière définitif, mais non pas au nom des idées supérieures de l'Occident, mais au nom d'hommes comme Mehmet Ali Saïgoun, de ces deux dames qui ont interprété la première sonate pour piano et violon de Beethoven, mais aussi de ceux qui ont sauvé le trésor de la sagesse persane à travers les siècles, sagesse qui est profondément hétérodoxe. C'est cela que je voulais dire. Bien entendu, après, on peut discuter, mais je ne suis pas pour ceux qui embellissent l'archaïsme effectivement brutal et chafouin de l'islamisme actuel. Je suis pour qu'il soit battu, et pas par nous, par eux. Et il se trouve que ça ne manque pas dans ces pays d'islam. Et quand on voit les Turcs qui nous disent « Oui, nous sommes musulmans, nous sommes fiers d'avoir été musulmans, nous avons une histoire glorieuse, mais aussi nous sommes européens et nous voudrons être admis dans l'Europe », je ne suis pas pour la réponse culturaliste de leur dire que tout l'archaïsme qui existe encore chez eux d'une troublante modernité, je suis pour leur dire « Venez, rentrez, soyez européens, nous le sommes comme vous, et nous aussi nous avons un passé difficile dont nous sommes séparés. C'est l'avenir ».
Philippe, je voulais dire que les terroristes peuvent être d'une troublante modernité, justement, et que cette frontière-là était pour le moins...
Justement, je ne suis pas d'accord, si vous me permettez, Philippe. Parce que les terroristes sont extrêmement modernes dans l'utilisation de la technique. Et dans la mise en œuvre des moyens. Mais le sont-ils dans les fins? Je ne le crois pas. La vision qu'a Oussama Ben Laden, qui le dit d'ailleurs très, très simplement, c'est de restaurer le califat. Il dit les musulmans sont dans le deuil depuis 1923.
Alexandre Adler, excusez-moi de vous couper.
Mais mon contraire.
Un petit mot, parce que c'est en filigrane de la fin de votre livre, puisque j'étais parti de l'idée du Grand Moyen-Orient. Près de la moitié de l'humanité vivra dans 20 ans en Asie-Pacifique. Et cette vaste zone produira 50 fois moins de pétrole que le Moyen-Orient, à la population 10 fois moins nombreuse. Alors, est-ce que, justement, ce Grand Moyen-Orient que vous redessinez, vos espoirs que vous indiquez, ce n'est pas aussi fait pour enrayer la rivalité Chine-États-Unis?
Alexandre Adler.
Alors là,
l'hégémonie.
C'est une très bonne question, mais vraiment, comme on dit en anglais, anybody's guess. Parce qu'il y a à court terme une très forte convergence entre les Chinois et les Américains.
C'est sûr.
C'est de maintenir le prix du pétrole relativement bas pour continuer à nourrir la croissance. Et puis il y a une rivalité qui peut se développer très fort. Et j'aurais envie de dire qu'à votre question, je répondrai d'un seul mot, lapidaire Pakistan. Ce pays est à la jonction à la fois de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, de toutes les contradictions possibles, et c'est enfin le pays où l'aile la plus dure, la plus chauvine, la plus agressive de l'actuelle direction chinoise investit contre la réconciliation avec l'Inde. Or, l'hindouité du Pakistan est la première chose qui frappe. Et de même que les Turcs doivent être européens, les Pakistanais doivent se réconcilier avec l'Inde. C'est une affaire de civilisation qui nous concerne tous. Alors.